Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu vas prendre un petit peu de cocaïne, Daniel, s'il te plaît, pour te rebooster, là.
Ah, mais moi, je suis... Attends, tu rigoles? Moi, tu me dis moteur? Ah, je sais pas.
C'est le Gérard Depardieu de la critique.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui reprend le chemin des études direction l'école pour jeunes gens doués du professeur Xavier, puisque revoilà les X-Men embarqués dans un sixième épisode de leurs aventures cinéma, sans compter les films Wolverine hein, parce qu'on se respecte un minimum. On prendra d'ailleurs un instant dans la seconde partie de cette émission pour remonter un peu le fil de la saga entamée il y a déjà 16 ans. Et oui, et pour en causer, deux mutants de la critique, Daniel Andreev, salut Daniel. D'accord, si tu veux. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Merci, c'est mieux de parler avec un être humain. Allez, c'est Nos Ciné. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 52, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ça part bien cette émission, il est déjà en roue libre, Daniel. X-Men Apocalypse, ça nous raconte, comme son nom l'indique, le retour aux affaires d'Apocalypse, mutant surpuissant débarqué des temps bibliques, qui décide de mettre la planète à feu et à sang en s'entourant de quelques méchants, dont ce fieffé salopard de Magneto, toujours incarné par Michael Fassbender. Et face à eux, on va retrouver leurs anciens amis, le professeur Xavier, toujours James McAvoy, et Mystique Jennifer Lawrence, et même ce bon vieux Wolverine. Et c'est pas Daniel Andreev, non, c'est même pas un spoiler d'ailleurs, parce que c'est dans les bandes annonces.
Of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first
mutant.
You are all my children.
Nos deux camarades ont vécu l'apocalypse avec les X-Men, mais qu'en ont-ils pensé, Daniel?
Écoute, la surprise, c'est que c'était pas nul.
Ah,
et
c'est déjà ça de pris.
Non, parce que c'est le film que tout le monde adore détester, parce qu'en plus, il y a la problématique Bryan Singer. Est-ce que Bryan Singer est un bon réalisateur ou pas? Ou est-ce que c'est un mec arrivé là un peu par hasard et qu'il était là sur les bons scripts au bon moment, je pense à Visual Suspect. Et la bonne surprise, c'est que bon, évidemment, c'est même moins bien, je dirais, que Civil War. Mais il y a...
Ah oui, carrément. Ah ouais, on n'a pas fait d'émission sur Civil War. Mais
c'est moins bien que Civil War.
Mais
ça et là...
Tu exagères.
Ça et là, il y a des petites lueurs de « Ah, il se passe quelque chose qui se déroule. » Et moi, je vais te dire franchement, moi, je suis fan des X-Men depuis... c'est mon premier comics que j'ai jamais lu dans ma vie. Les X-Men sont très importants pour moi, vraiment. Et tu sens que Bryan Singer a essayé de canaliser les X-Men des années 80, ceux de John Byrne et de Chris Claremont. Et
la meilleure période, on peut le dire.
La meilleure période. Et ça ressemble à un comics de Chris Claremont, avec ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que c'est très bavard. Ça va parfois nulle part. Il y a des personnages qui arrivent parce qu'ils arrivent, parce qu'il fallait une ninja anglaise habillée en maillot de bain. Et hop, on a besoin d'elle. Bah, elle est là, au milieu de l'histoire. Il y a des personnages qui sont là de manière complètement pas justifiée. Et c'est foutraque. Et t'as besoin. Et en plus, c'est ça qui est vraiment très Claremont dans l'écriture. C'est que t'as besoin de faire appel à tes propres connaissances comics, parce qu'il y a énormément de références au passé. Il y a des références à la BD, ils n'ont pas pris le temps d'expliquer pourquoi ce personnage est important, pourquoi toutes les modifications qu'ils ont fait, parce qu'ils en ont fait énormément. Et je pense que au final, les qualités de ce film arrivent à surpasser les défauts, et pourtant il y en a. La Jean Grey qu'ils ont choisie, qui est jouée par Sansa Stark de Game of Thrones, est atroce. Atroce, je pèse mes mots. Ils nous refont des trucs qu'on voulait plus voir, c'est-à-dire Fassbender avec une vie de famille. Fassbender commence comme un ouvrier polonais, et là ça pourrait commencer comme un film porno convenable. Et en fait,
un film porno convenable.
Et en fait, au fur ah ben pour
mais non,
écoute,
non,
pour
non,
plein
mais
de gens, pour plein de gens, Fassbender, écoute. Oui. Et je pense à toutes mes amies. Et en fait, c'est des scènes de kitschissime, c'est super tendu, c'est très ringard. La réalisation est assez ringarde. Genre, le film n'est pas encore sorti en salle en France, mais déjà, tu sais qu'il y a des phases entières qui puent la ringardise.
Après, c'est le souci de la façon dont Bryan Singer filme ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est déjà le problème dès le premier, dès le premier X-Men. C'est-à-dire que à l'époque où le premier X-Men est sorti, tu pouvais pas vraiment vouloir à Bryan Singer d'essayer de traiter ça avec le sérieux avec lequel il a traité. Donc ça, c'est, c'était très bien. Mais à côté de ça, dès qu'il y avait une scène d'action, il n'y avait plus personne. C'était atrocement mal filmé. Pas de dynamique pour dessous. Tout est ramené à un certain niveau. Moi, c'est un peu tout ce qui m'a toujours fait chier chez Bryan Singer. C'est qu'en fait, ils ont tous les mêmes costumes noirs, tu vois. On fait même des blagues en fait sur le fait qu'il faut pas mettre des costumes comme ceux du comic
book. Et là maintenant ils font des blagues sur X-Men 3 était nul.
Voilà, non mais ça c'est un autre problème. C'est
le film que lui n'a pas fait du tout, auquel il n'a pas participé.
Mais c'est surtout
le petit vengeur.
Ouais.
C'est surtout le souci, c'est tout le souci de cette façon de relire l'histoire en réutilisant Days of Future Past notamment dans le précédent. Et de se placer au centre en fait de la vérité de la chose. Dans Days of Future Past, t'as une espèce de scène qui est filmée, qui fait référence au film de Zapruder de l'assassinat de JFK, mais pour filmer un mutant. Et en fait, la personne qui filme, enfin donc c'est censé être le film qui détient la vérité, hein, ouais. C'est ça dans l'histoire avec un grand H de JFK, puisque c'est le film qui est analysé
oui,
pour
la bobine Super 8 qu'on a vu et revu.
Voilà. Et là, en l'occurrence, le mec qui filme ça. Dans
Days of Future Past,
c'est Bryan Singer. Ouais. Donc du coup, il se positionne comme le mec qui détient la vérité sur les X-Men. Vérité, ouais. Voilà. Et donc en fait, les petites piques sur X-Men 3 et fondamentalement, X-Men 3 c'est nul, hein, mais fondamentalement, il filme pas mieux ou moins bien qu'un Brett Ratner. C'est ça le problème.
Il est pas très différent. X-Men 3 et celui-là ne sont pas très différents.
Non, c'est juste que c'est très mal écrit aussi. C'est-à-dire que la qualité, en tout cas, moi je trouve du premier X-Men, c'est que c'est un film qui est plutôt bien écrit. Et c'est tout le problème de Bryan Singer, c'est qu'en fait, si un scénar qui est plutôt bien écrit, ça va à peu près tenir la route. Voilà, mais si parce qu'il fait rien pour ramener, enfin pour rehausser ça ou pour baisser ça en fait la qualité. Si le scénar est bien, en général le film est plutôt pas mal quoi. C'était le cas du premier X-Men. Je suspecte, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que j'aime pas trop le film, mais admettons. Et le truc c'est que là sur X-Men Apocalypse c'est ça le problème, c'est que c'est mal écrit. C'est-à-dire qu'on arrive encore effectivement quand Daniel parle de l'arc de Magneto, c'est le problème, c'est qu'on en arrive encore à la troisième fois avec Magneto où on te dit il est gentil, mais en fait il est méchant, mais en fait il est gentil, mais en fait il a des raisons, mais en fait voilà. Et effectivement, le problème c'est que
c'est pompeux.
C'est pompeux et c'est pompeux parce que c'est pompeux sur le papier, mais qu'il y a personne pour rehausser en fait pour rehausser ça et dire voilà, parce que la scène en soi elle est très très solennelle, très voilà, attention, il rebascule du côté obscur, alors qu'avant ça il c'était la petite maison à prairie, il était dans en train de couper du bois, tu vois, avec sa femme
dans le film précédent quoi.
Voilà, et le truc c'est que ça se termine, enfin c'est ça le problème, c'est qu'en Days of Future Past ça se termine sur Magneto est devenu
Magneto,
et là en fait on te dit bah non finalement voilà,
il s'est refait une famille, il s'est refait une gosse. Et tout,
Voilà, donc le truc c'est que tu perds un temps fou à mettre ça en place. Tout ça en plus pour finalement encore une fois revenir Magneto du bon côté.
Oui, il revient.
C'est hyper bordélique. Et quand tu rajoutes effectivement beaucoup de persos. C'est-à-dire que, en fait, c'est un film qui va de mal en pis, Apocalypse. C'est vraiment ça le problème. C'est-à-dire que tu débutes le film, tu as par exemple la présentation d'Apocalypse, 3500 ans avant Jésus-Christ.
El-Nour Sabah.
Voilà, et le truc, c'est que tu te dis, bon, pourquoi pas, c'est une mise en place qui se vaut, qui est correcte, quoi.
Qui vaut au moins Gods of Egypt, quoi.
ouais, mais c'est pareil, un mec comme Singer ne fera jamais un Gods of Egypt parce que justement, en fait, il va pas aussi loin quoi. Et le truc c'est que donc ça reste, tu te dis bon, c'est une bonne mise en place, ça fonctionne et tout, et au fur et à mesure on te représente les enjeux que t'es censé connaître depuis quelques films maintenant. Le problème par exemple de Wolverine en soi, c'est que c'est la troisième fois depuis donc maintenant 16 ans qu'on se tape des X-Men au cinéma, c'est la troisième fois qu'ils te refont l'arme X, c'est la troisième fois qu'ils te le refont mal.
c'est sans doute le passage le plus mal filmé, c'est surtout
pire que dans les films Wolverine.
Mais c'est pas le problème en
parce
fait.
Parce que ça dure que 2 minutes, mais c'est 2 minutes de très très mal.
C'est du fanservice, ça ne sert absolument à rien, c'est juste en fait, c'est le seul truc narratif qui est posé là, c'est de dire bon bah Jean Grey en fait il va tomber amoureux d'elle parce qu'elle le touche à ce moment-là.
C'est vraiment du fanservice et c'est filmé mais comme un sketch du Jamel Comedy Club, vraiment, c'est vraiment.
Ça me fait penser à la scène où Mario David dans Oscar pète un boulon et casse la gueule à tout le monde et s'enfuit de la baraque. Et c'est vraiment ça.
Mais on a l'air négatif. Mais alors, et moi je voudrais juste en mettre quand même sur ce qui est positif. Oscar Isaac, dont tout le monde vannait parce que son costume est moins bien que celui d'un
cosplayer.
Ouais. Et écoute, je trouve que au moins il y a une menace qui est sensible. Au moins tu y comprends une menace. Et pour un film de super-héros, il faut un méchant, il faut quand même un antagoniste fort. Et ça fonctionne, et même presque plus que Civil War. Ou Civil War, on va pas spoiler Civil War pour ceux qui l'ont pas vu, mais le méchant de Civil War, c'est un Pékin moyen.
Zemo, oui, il est tout
c'est un Pékin moyen là-dedans. Et là, c'est vraiment un gars qui tabasse, qui tue des gens et qui casse des choses. Et il y a vraiment du conflit. Et pour moi, X-Men, c'est ça qui est important. C'est quand tu voyais Magneto qui soulève un pont, tu vois, un truc comme ça. Il y a vraiment une menace. Oui. Et les X-Men, n'existent que quand il y a la menace. Et c'est ça la beauté de ce que sont les X-Men. C'est des mecs qui sont détestés et en même temps qui sauvent les gens qui les détestent. Et au moins ces films-là comprennent à peu près ça, quoi. Je suis pas fan parce que le problème, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a tellement de persos, tu peux pas, c'est comme l'école des fans, quoi. Tu mets une note à Cyclops, tu mets une note à Mystique qui est joué par
Jennifer Lawrence
là elle a eu un swap complet de personnalité. Elle est pas du tout écrite comme avant, c'est plus du tout une méchante. Et alors ils ont dit dans le 2, enfin dans Day of Future Past, c'est à cause d'elle tout le problème de Day of Future Past. C'est des mecs qui courent après une fille, et la fille qui va foutre la merde. C'est ça l'histoire de Day of Future Past. Là ils se sont dit on est allé trop loin dans la misogynie là on va la faire carrément gentille, et c'est elle qui donne de l'espoir. Et ils l'ont vraiment écrit comme dans Hunger Games. C'est assez incroyable. C'est genre elle donne de l'espoir au monde mutant.
Après, moi, je sais pas si c'est une question de misogynie par rapport à Days of Future Past, si ce n'est qu'une question que c'est pas très bien écrit.
C'est pas très bien écrit.
Le problème, c'est que tous ces problèmes-là, ils étaient déjà là en fait, encore une fois, depuis longtemps. Hein, oui, X-Men 2. X-Men 2, c'est quand même un film où en gros, on te dit alors il y a Wolverine au début. Il va au Canada là pour aller voir où ça s'est passé l'arme X. Il croise un loup. Il se dit tiens, il y a personne. Il descend pas dans le truc. Il y revient. Tu vois, et en fait, à la fin, donc, ils finissent par y aller parce qu'à un moment donné, si tu veux, voilà. Donc, il y va. Et là, tout le monde découvre quelque chose sur lui. Toi, c'est pas que Wolverine qui découvre un truc sur l'arme X, c'est, Tornade qui découvre un autre truc sur elle. Et en fait, le problème, si tu veux, c'est que c'est la gestion des persos dans les X-Men. Et c'est quelque chose de très compliqué à faire. Hein. Je veux dire, elle a jamais vraiment, à part encore une fois, là, moi, je trouve les hyper efficacités du premier épisode où t'as, en 15 minutes, les mecs te présentent tous les persos principaux de la saga, en tout cas du film, dans le premier film, quoi. C'est super efficace, et à tel point que le mec, dans celui-là, dans X-Men Apocalypse, il reprend carrément la présentation de Wolverine du premier. Il l'a fait avec Angel et Nightcrawler, voilà, ouais. Diablo. Et c'est la même chose, c'est dans une cage, les mecs sont en train de se battre.
Il y a aussi un problème, tu dis, on est tous d'accord que c'est l'écriture. Et c'est aussi que ça a été écrit comme basé sur les X-Men des années 90. C'est-à-dire qu'il y a la continuité, il y a tellement de continuité, genre tu sais plus comment est ce Cyclops là, et tout d'un coup il y a Alex Summers qui revient alors qu'on croit, je croyais qu'il était mort dans le premier
dans First Class.
Ah, oui, oui. Et en fait,
on s'y perd en fait.
Ouais, genre il y a tellement de continuité que ça devient foutrarque. Ouais.
C'est un petit peu comme les comics maintenant aussi.
Non, exactement ça, c'est exactement ce qu'ils ont canalisé. Et par exemple, les origines de Logan, on te l'a remassé, mais ça c'est un truc typiquement venu après. Dans les années 80 encore, Logan était encore un mec, tu savais juste qu'il était sauvage et qu'il était probablement canadien et qu'il était poilu. C'est tout ce que tu savais sur ce personnage et ça suffisait à rendre le comics intéressant. Maintenant, on essaie de te raconter tout en détail et toutes leurs origines et tout ça. Et en fait, on n'a pas besoin de leurs origines. Et si on peut au moins donner un point positif sur Civil War, c'est qu'ils essayent pas trop d'aller dans les origines de Spider-Man. Ils y vont très très vite. C'est comme une pastille. Ouais, comme
là, Spider-Man Homecoming qui va arriver.
Ouais, puis Spider-Man, il est dans Civil War. Il est juste là pour dire ça y est, les gars, on a le perso. On va vous faire bander.
Quoi, hein.
Et je veux dire, c'est un truc
de huissier.
Quand tu regardes Civil War, ce qui est évident, c'est dans la fameuse scène du tarmac, c'est que non seulement ils le font rentrer au chausse-pied, mais toute cette scène est rentrée au chausse-pied parce que le truc, c'est que le film était en tournage quand ils ont négocié les droits de Spider-Man.
Et ça sent dans la tonalité du film.
Voilà,
c'est pas le même film.
Tonalité différente.
On est en train de dévier là sur Civil War.
Non, mais tu sais, moi, ce qui me fait dévier, c'est que tu portes un t-shirt Robocop et je trouve ça tellement sexy.
C'est beau. X-Men Apocalypse, c'est au cinéma en ce moment, on l'a dit. On va pas faire un retour sur toute la saga là, comme je l'avais dit, puisqu'en fait, on l'a fait sans que j'ai besoin de vous tendre la perche parce que vous êtes très fort. Mais pour terminer, quand même, messieurs, vous avez quelques minutes pour les recommandations, comme d'habitude. Et on va commencer par Stéphane, puisque Daniel le pointe du doigt. C'est moi qui décide, quand même, Daniel. Et je décide de décider quand même que c'est Stéphane.
Merci.
Ouais, moi, je vais conseiller un documentaire qui s'appelle. Ouais. qui est un classique, hein, de documentaire sur le comic book, qui s'appelle Comic Book Confidential.
Bien sûr.
Rodman des années 80, je crois que ça existe en DVD.
Oui, ça existe en DVD.
Chez Wildside, il me semble.
Ah, ça, je ne saurais pas te le dire, mais ça existe en DVD.
C'est sorti il y a une dizaine d'années, je crois, ici. Et bon, maintenant, c'est un peu on parle de l'âge canonique, hein, parce qu'en fait, t'as quand même les Stan Lee dedans, t'as Jack Kirby, il y a tout le monde, hein, y a Frank Miller, il y a
Romita.
Ils y sont tous, quoi. Et c'est une vision assez générale. Bon, c'est surtout des années 80 en l'occurrence, mais il revient. Il y a Will Eisner aussi. Il revient quand même sur des
fondamentaux.
Voilà. Et voilà, parce que je vais quand même pas conseiller un autre film comic book de ceux qui sortent
moi
actuellement.
Complètement qu'on puisse recommander un film comic book.
Ben vas-y, Daniel.
Et alors moi, je vais pas recommander un film. Je vais recommander une série.
Ah.
Et je pensais que ça allait être mon guilty pleasure, et j'ai appris à aimer Flash. La série CW. Et tu sais quoi, il y a un truc qui est génial dans Flash, c'est que, alors d'abord, ils ont pris Barry Allen, qui est mon Flash que je déteste, il est chiant à mourir, et ils l'ont pas du tout écrit comme Barry Allen, ils l'ont écrit comme Wally West, qui est Kid Flash, et qui est le garçon qui devient Flash après que Barry Allen meurt. Et donc, ils n'ont pas du tout écrit le même perso, ils l'ont écrit comme si c'était Spider-Man. Et du coup, c'est vraiment chouette parce que tu vois le personnage grandir d'épisode en épisode, apprendre à utiliser ses pouvoirs, à craindre ses pouvoirs, à craindre pour les responsabilités que ses pouvoirs engendrent. C'est vraiment Spider-Man écrit comme si c'était un speedster.
C'est marrant que tu parles de Flash parce qu'il y a une scène dont on n'a pas vraiment parlé qui est dans Apocalypse, qui est quand même la scène de Quicksilver, quoi, ouais. qui est, je pense, la scène que tout le monde va retenir dans le film.
Comme la dernière fois.
Ouais, voilà, et qui est très étonnante parce qu'effectivement, tu sens que les mecs ils se sont vraiment fait chier à essayer de faire une scène, mais tu as l'impression qu'elle rentre quand même aux chausse-pieds là-dedans parce que c'est une scène comique.
Au milieu d'un truc très dramatique, ouais.
Voilà, au milieu d'un truc très dramatique avant et après, donc tu te dis bon, oui. Bah on te fait rentrer voilà. Ça, voilà, tu vois. Mais bon,
sympa.
La scène fonctionne plutôt pas mal, c'est même une des meilleures scènes du cinéma de Bryan Singer. Ouais. Voilà.
Et donc Flash est extra, c'est vraiment, ça va au-delà du guilty pleasure, c'est vraiment bien écrit et c'est quand même une série où il y a un singe, un super vilain gorille, Grodd, qui était un gorille télépathe. Et je veux dire, rien qu'une série avec ça, moi, ça me donne envie.
C'est vrai que ça donne envie. Merci beaucoup à tous les deux. Notre temps est écoulé. Merci à Jules, à la technique, et merci autant que pour l'accueil. Prochain de ciné version longue, on parlera de The Witch et on fera plein d'extra balls entre temps. Restez aux aguets en allant notamment sur nosciné.com, notre site où vous retrouvez en plus toutes nos anciennes émissions. C'est toujours ça de prix. En attendant les prochaines, laissez-nous des petits messages. Ça nous fait toujours très plaisir. On rappelle que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, à retrouver aussi sur binge.audio, et d'ici là on vous dit à bientôt.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.